Nous souhaitions rendre hommage à Stephen Hawking, le physicien, théoricien et cosmologiste britannique qui est mort cette nuit. Il est mort à l'âge de 76 ans. Il était particulièrement connu pour son best-seller Une brève histoire du temps. Dans Une brève histoire du temps, il expliquait, Catherine, que chaque équation qu'il mettrait diviserait les ventes de son livre par deux. Il y avait très peu d'équations du coup. Et le livre est resté 237 semaines consécutives dans la liste des best-sellers du Sunday Times. C'est un record absolu. On va entendre sa voix, enfin sa voix si j'ose dire, car comme vous le savez, Stephen Hawking souffrait d'une sclérose latérale amyotrophique et du coup, il s'exprimait grâce à un synthétiseur.
We are each free to believe what we want. And it's my view that the simplest explanation is, there is no God. No one created the universe, and no one directs our fate. This leads me to a profound realization.
Dans cet extrait, Stephen Hawking dit en substance, on est libre de croire ce que l'on veut, il n'y a pas de Dieu, personne ne guide nos pas, il n'y a probablement pas de paradis, et c'est pour ça que je suis extrêmement reconnaissant à la vie et à la biologie. Bonjour Pierre Manant.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, historien et directeur d'études à l'EHESS. J'ai envie de dire qu'on va passer de la physique, en quelque sorte, à la métaphysique. Je ne suis pas sûr que pour vous, il n'y ait pas de Dieu. Je dois même dire que je suis persuadé du contraire.
Je me permettrai sur ce point d'être éventuellement en désaccord avec ce grand esprit.
Et si vous deviez faire un lien entre la physique et la métaphysique, que diriez-vous, Pierre Manant ?
Je ne saurais pas. Je ne saurais pas. Mon champ de recherche, celui dans lequel j'ai le sentiment d'avoir vu des choses ou compris des choses, c'est, je dirais, l'ordre humain, l'ordre politique. La métaphysique est une belle discipline, mais dans laquelle je n'ai pas le sentiment d'avoir avancé beaucoup.
On va parler de politique et de choses extrêmement prosaïques par rapport à ces auteurs, mais juste avant, puisque votre dernier écrit s'intéresse à la loi naturelle, peut-être que cela vaudrait la peine d'ailleurs que vous nous disiez ce qu'est la loi naturelle et en quoi celle-ci justement se rattache à une certaine conception métaphysique de l'homme qui considère qu'il y a quelque chose dans l'homme qui n'est pas réductible aux spécificités de chaque société. Manon.
Oh, la loi naturelle, c'est à la fois facile à définir et insaisissable. C'est, je dirais, l'ensemble des facteurs de la vie humaine qui ordonnent cette vie, sans lesquels il n'y a pas de vie humaine reconnaissable, donc qui règlent d'une certaine façon la vie humaine, et que les hommes n'ont pas fait. Parce que, bien sûr, les hommes font leurs lois, les lois changent selon les cultures, les civilisations, les régimes politiques. En même temps, à travers toutes ces cultures, civilisations, régimes politiques, pour que, si j'ose dire, la physionomie humaine reste reconnaissable, il faut qu'il y ait des principes communs à travers toutes ces sociétés. Et la loi naturelle, ce sont ces principes communs que l'esprit humain est capable de dégager. Alors que pour certains, ces principes ont une origine métaphysique, c'est-à-dire s'enracinent dans le créateur, de quelque façon qu'on le conçoive. Pour d'autres, ces principes sont inscrits dans la nature humaine, dans la condition humaine.
La métaphysique, pour vous, c'est une forme d'inquiétude métaphysique qui transparaît d'ailleurs dans le dernier ouvrage que vous avez fait paraître au PUF, La loi naturelle et les droits de l'homme. Vous êtes inquiet parce que pour vous, Pierre Manant, la doctrine des droits de l'homme, seul principe de légitimité pour vous encore accepté dans les pays européens, ôte en quelque sorte toute boussole à la vie sociale et à l'art du gouvernement. Expliquez-nous pourquoi.
Le problème n'est pas, je dirais, les droits de l'homme en tant que tels, qui sont une des grandes ressources de nos sociétés depuis la fin du XVIIIe siècle. Ils ont été élaborés au XVIIe siècle et ils sont devenus une force politique majeure à la fin du XVIIIe siècle avec l'indépendance américaine, la fondation des États-Unis et bien sûr la Révolution française. Le problème aujourd'hui, c'est que ces droits de l'homme sont devenus un principe exclusif de légitimité dans nos sociétés. Auparavant, ils se mêlaient à d'autres principes, d'autres règles, d'autres éléments d'orientation. Bon, prenez la Révolution française, la République française. Bon, il y avait bien sûr les droits de l'homme, mais aussi les droits du citoyen, c'est-à-dire la vie civique, les principes de la vie civique, qui étaient à la fois nouveaux, la nation moderne, républicaine, révolutionnaire, si vous voulez, et puis aussi des principes anciens, des traditions morales qui ont été reçues, rénovées, mais enfin entérinées aussi dans la République française. Aujourd'hui, le problème, c'est que ces droits de l'homme, avec l'extrême abstraction qui les caractérise, veulent être, ou on veut qu'ils soient, le seul principe d'orientation. Et si l'on se donne comme seul principe d'orientation des individus libres et égaux en droit, eh bien, on constate rapidement que, en réalité, on perd de quoi organiser et gouverner la société, parce qu'il est impossible de penser la moindre institution commune, si l'on a à sa disposition que ces principes.
Alors, on va voir ça, on va voir pourquoi vous pensez cela, Pierre Manon, mais moi, j'avais plutôt l'impression que les droits de l'homme étaient souvent attaqués aujourd'hui, dans le monde, c'est certain, et plus particulièrement encore en Europe, ce qui est nouveau, en Pologne, par exemple, en Hongrie. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que le règne des droits de l'homme, du droit de l'hommisme, justement, est derrière nous ?
Non, mais le droit de l'hommisme, bon, c'est une formule polémique qui ne recouvre pas grand-chose. Comment dire ? Les droits de l'homme, les principes des droits de l'homme, montrant la, comment dire, suscitant les difficultés que je viens de mentionner, suscitent des réactions qui ne sont pas nécessairement éclairées. Bon. Et nous nous trouvons dans cette situation où nous avons d'un côté l'abstraction des droits de l'homme qui ne permet pas, qui ne suffit pas à guider nos ensembles politiques, nos nations ou l'ensemble européen. Et donc ces insuffisances suscitent des réactions qui sont, je dirais, éventuellement, pas nécessairement, mais éventuellement régressives. Et ce qu'il nous faut élaborer, c'est une voie qui tienne compte des bien positif qu'apporte incontestablement le principe des droits de l'homme, avec les nécessités de former des institutions communes, des corps politiques qui ont une substance, qui ont un contenu, qui ont une vie intérieure. Les sociétés, les démocraties doivent avoir une vie commune, et les droits de l'homme ne suffisent pas à créer cette communauté.
Qu'est-ce que vous appelez une institution commune ? En quoi celles-ci sont-elles en crise ?
Une institution commune, l'université, la nation, la famille. Vous voyez, un problème très simple aujourd'hui, ayant une pensée émue pour les lycéens qui essaient de s'inscrire à l'université. Bon, la sélection. Notre difficulté à penser cette question de la sélection. Égalité des droits, tout le monde doit entrer à l'université. Entre nous, je comprends l'inquiétude des élèves et des étudiants, mais ce n'est pas raisonnable. L'université, c'est une institution. Une institution, elle a ses règles, elle a ses finalités. Donc, on entre dans l'université dans la mesure où l'on est capable, préparé à, s'inscrire dans les finalités de l'institution. Et donc, nécessairement, alors c'est fait bien ou mal, mais nécessairement, l'institution universitaire produit ses règles de fonctionnement qui règlent en quelque sorte les conditions d'entrée dans l'université. Et vous voyez sur cet exemple que si on dit égalité des droits, eh bien, l'institution n'a pas de contenu, n'a pas de finalité, et au fond, on entre dans une institution, on a le droit d'entrer dans une institution dont on ignore le sens. Voilà un exemple de la tension entre l'idée pure des droits et le contenu d'une institution.
Alors parmi les autres institutions que vous avez citées, vous avez dit l'université, vous avez dit également la famille, Pierre Manon, en quoi la famille est-elle en crise aujourd'hui ?
En crise, bon, si vous voulez, ces termes sont toujours à la fois commodes.
Alors, en quoi le discours des droits met-il la famille aujourd'hui en danger ?
La famille est une institution. Non. Une institution qui fait quoi dans le cas de la famille ? Eh bien, à travers toutes les cultures, à travers toutes les civilisations, à travers tous les régimes, la famille réglait selon des modalités variables, une double différence, la différence des sexes et la différence des générations. Et évidemment, dans la famille s'articule la différence des sexes et la différence des générations. C'est cela le sens institutionnel de la famille. Et d'une certaine façon, les évolutions actuelles tendent à mettre entre parenthèses cette définition institutionnelle de la famille au profit d'une définition, je dirais, qui transforme la famille en, qui la réduit à le couple qui s'aime. Et chacun a, membre d'un couple qui s'aime, a le droit de s'appeler une famille. Et on voit bien la tension, n'est-ce pas? Parce que c'est une autre définition de la famille qui tente à la désinstitutionnaliser.
Ça, c'est votre lecture, mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire, vous êtes un grand lecteur de Tocqueville, Pierre Manant, et pour Tocqueville, l'évolution de la démocratie, c'est l'évolution du sentiment du semblable.
Oui.
Est-ce que, pour un Tocqueville revenu parmi nous, par exemple, le mariage pour tous ne serait pas une évidence, puisque finalement, le mariage pour tous, c'est une conséquence du sentiment du semblable?
Vous avez parfaitement raison, c'est une conséquence du sentiment du semblable, mais Tocqueville était, comment dire, très, très, très sensible, et c'est, d'une certaine façon c'est lui qui nous l'a appris, à l'ambivalence de ce sentiment, tout ce qu'il produit de bon, et aussi tout ce en quoi il met en danger les institutions et la constitution des institutions. Tocqueville d'ailleurs, sur ce point-là, il avait des vues. Si vous lisez ce qu'il écrit, par exemple, sur les relations entre les sexes aux États-Unis, il avait des vues que nous dirions aujourd'hui traditionnelles, n'est-ce pas? Il estimait que les femmes et les hommes avaient des vocations, étaient égaux, bien sûr. Aux États-Unis, il admirait l'égalité féminine, comment dire, que les femmes jouissent d'une égalité qu'elles ne connaissaient pas en Europe, mais il félicitait aussi les femmes américaines pour la manière dont elles réussissaient à combiner cette égalité avec une fonction spécifique très distincte de celle des hommes, une fonction qui, reconnaissait-il, les tendait à les confiner dans la vie domestique. Mais il pensait que la tâche de la démocratie est toujours de trouver un équilibre entre le sentiment du semblable, les progrès du sentiment du semblable avec tous les biens que cela recouvre, et aussi avec une institutionnalisation des différences ou des distinctions sans lesquelles il n'y a pas de vie sociale véritablement cohérente.
Alors justement, si on essaye de voir où nous porte ce sentiment du semblable, lorsque nous sommes confrontés par exemple à des cultures différentes de nous, Pierre Manant, est-ce que ce sentiment du semblable contribue aujourd'hui à nous faire oublier, j'allais dire, les différences, peut-être diriez-vous les hiérarchies entre les manières de voir, c'est-à-dire le fait de considérer que tous les systèmes moraux ne se valent pas?
Vous voyez comment nous sommes en difficulté avec le sentiment du semblable, parce que, évidemment, nous voulons, et d'ailleurs, non seulement nous le voulons, mais cela nous vient spontanément, nous voulons reconnaître en tous les êtres humains, des semblables. Cela ne pose pas de difficulté lorsque l'on se rapporte à un individu, à quelque société ou à quelque culture, comme on dit aujourd'hui, qu'il appartienne. Mais lorsqu'on considère l'ensemble de sa société, alors on se trouve dans cette situation où cet individu est notre semblable et nous le reconnaissons, je dirais, avec spontanéité et contentement. Et en même temps, la société ou la culture à laquelle il appartient a des mœurs ou des manières de vivre, des manières de faire qui nous choquent profondément. Alors, nous sommes devant cette tension entre un individu qui est notre semblable et cet individu a, en tant que membre de sa culture, une manière de vivre qui choque profondément notre sentiment, précisément, de la similitude humaine. Et nous avons beaucoup de peine à trouver une manière de nous rapporter de façon équilibrée à ces deux aspects de notre expérience.
Donnez-moi des exemples.
Écoutez, nous sommes tous égaux, toutes les cultures sont égales. Bon, très bien, mais que faisons-nous des cultures où est institutionnalisée l'inégalité féminine ou l'inégalité de conditions des femmes? On voit bien aujourd'hui la question que cela pose, par exemple, par rapport à l'islam, ou à un certain islam en tout cas, que nous nous interdisons de porter un jugement sur l'islam comme ensemble humain. Il serait très malvenu de dire, par exemple, qu'en tant que civilisation, il est marqué d'une certaine déficience radicale par rapport à notre civilisation, par exemple.
Ce serait malvenu, ce serait surtout inexact, et par trop généralisateur.
Bien sûr, mais en même temps, que faisons-nous alors de, par ailleurs, cette inégalité qui semble faire partie de certains composantes, en tout cas, ou certaines expressions de l'islam, négocions-nous notre jugement? Et je ne réponds pas, je ne prétends pas donner un guide pour répondre à ces questions, mais vous voyez bien que ce que je veux simplement expliquer, c'est que cette simple idée de la similitude, cette idée que nous sommes tous semblables, tous égaux, est insuffisante pour nous orienter dans le monde, parce que nous nous trouvons alors devant des jugements en partie doubles, n'est-ce pas? Nous sommes tous égaux, mais en fait cette civilisation qui ne reconnaît pas l'égalité a quelque chose de fondamentalement étranger.
Mais est-ce que vous voulez dire, Pierre Manon, que notre culture, alors je ne sais pas comment vous la qualifieriez, culture judéo-chrétienne, enfin je vous laisse d'ailleurs la nommer, ne devrait pas mettre son drapeau dans sa poche et devrait en quelque sorte camper plus sur ses valeurs?
Non, je... Agiter le drapeau des valeurs, je ne... Ce n'est pas quelque chose que je fais volontiers, surtout que nos valeurs sont parfois contradictoires. Donc je ne répondrai pas de cette façon. Je dirais, nous devons trouver le moyen d'éduquer un jugement qui permette à la fois de faire sa place essentielle à la reconnaissance de l'égalité humaine, de la ressemblance humaine, et qui permette de juger entre les formes de vie humaine.
Pierre Manon, La loi naturelle et les droits de l'homme, c'est le livre que vous venez de publier aux Presses universitaires de France. On se retrouve aux environs du 8h20 et je vous demanderai votre point de vue sur la politique en France, la politique aux États-Unis, votre regard sur Donald Trump, puisque vous avez beaucoup écrit aussi sur la spécificité du contrat social aux États-Unis et sa différence avec ce que l'on pratique en France.